Merci aux jeunes pour ce cantique. Au milieu de l'été, ils chantent toujours comme des cigales. Magnifique. Je voudrais regarder avec vous, mes amis, en vous saluant pour ceux qui viennent d'arriver, regarder un passage de l'Évangile de Jésus-Christ qui fait réfléchir, parce que Jésus n'est pas venu pour mentir, tricher, cacher la vérité. Il est venu comme un urgentiste. Il faut qu'il nous saisisse et qu'il nous opère vite de certaines mauvaises choses malignes qui tournent mal dans notre cœur. On a besoin d'être guéri dans son âme. Je lis avec vous dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16, et au verset 19. C'est une histoire étonnante, mais qui peut-être est l'envers du décor de ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons des gens qui se promènent, qui se réchauffent un peu les os, qui sont à la terrasse des cafés, qui vont dans les lieux de spectacle, de plaisir. Ça, c'est ce que nous voyons de notre côté. Puis à l'autre côté, que nous ne voyons pas, Jésus va nous le montrer quelques secondes. Luc 19, 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient pour lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans la compagnie d'Abraham, dans le ciel. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, dans sa compagnie. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Ce qui veut dire, ils ont les Écritures saintes, la Bible. Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Abraham dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Amen. Jésus ouvre un tombeau devant nous pour nous montrer l'envers du décor. Et ça va durer si peu de temps que ça vaut la peine de bien regarder. De toutes les façons, seul Jésus peut bien parler de la mort, lui qui est ressuscité des morts. J'en parlerai bien, mais imparfaitement. Je ne sais pas. Je crois, mais je ne sais pas tout. Jésus, dans cette histoire, nous invite à suivre un homme et à regarder ses derniers jours et après. Ses derniers jours et après. Qui est cet homme? On ne sait pas son nom. C'est un riche, très riche. Il mène joyeuse vie, brillante vie, chaque jour. Il faut déjà être riche. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Dans le monde d'aujourd'hui, on peut faire une fois la fête, mais pas tous les jours. On peut recevoir quelques amis à midi, mais pas matin, midi et soir. Lui, c'est la fête, c'est sa religion, c'est sa raison de vivre. Il est sur la terre pour cela, il fait la fête tous les jours. Mais, par ses richesses et par ses plaisirs, il a oublié Dieu et les autres. Il est devenu aveugle sur Dieu et les autres. Donc, ce n'est pas une vie réussie. Une vie où tout est bien, où tout est calme, où tout est rangé, où tout est riche, qui n'a pas le souci de Dieu et des autres, ça veut dire en fait de sa propre âme. Cette vie-là n'est pas réussie. Car la vie, c'est être en relation avec Dieu et les autres. Le riche mourut aussi, un jour ou l'autre. Comme le pauvre Lazare. Pourquoi ce mot « aussi » ? Il mourut aussi. Peut-être que dans notre imagination, on pense qu'avec la richesse, on pourra échapper, peut-être, à la souffrance, à la vieillesse difficile. Pourquoi pas à la mort ? La Bible dit que, dans son imagination, le riche se dit « ma richesse est ma forteresse ». Ça, c'est l'imagination. La richesse peut faire perdre la tête. Le riche mourut aussi. Mais mes amis, là, dans l'histoire de Jésus, nous voyons l'heure la plus grave de notre histoire, parce que cette heure de mourir nous met devant le juge des vivants et des morts. C'est donc l'heure la plus grave de notre histoire humaine. C'est une heure importante pour moi, premièrement. C'est l'heure où les chaînes tombent. Quelles chaînes ? Cet homme qui domine tout avec sa fortune, il est lui-même esclave de sa fortune. Son crime, son erreur, son péché, c'est de se donner tout entier dans le luxe, dans les loisirs, dans les plaisirs peut-être même permis, jusqu'à en oublier Dieu. Jusqu'à en oublier Dieu. Nous devenons esclaves de notre raison de vivre. Au temps de Noé, on mangeait, on buvait, on se mariait, on mariait les enfants, jusqu'à en oublier Dieu. Il y a deux façons de vivre. S'aimer soi-même jusqu'à oublier Dieu, ou aimer Dieu jusqu'à s'oublier. Cet homme a abandonné Dieu parce qu'il était pris dans les chaînes du plaisir. C'est comme la fleur qui abandonne son jardin et qui se dit « je ne vais quand même pas passer toute ma vie à avoir un pied dans la tombe, un pied dans la boue » et qui part et qui s'en va hors du jardin et tout le monde lui dit dans le jardin, les arbres, les arbustes, les oiseaux « malheureuse, tu vas mourir » et la fleur se fane le soir même et le jardinier la ramasse et la jette dans la benne d'ordure sans pitié. Elle avait abandonné la source de sa vie, le jardin. Si nous ne demandons pas à Dieu de nous libérer de nos chaînes d'aveuglement, la mort le fera un jour ou l'autre, parce qu'un jour, nous verrons ce qu'a été notre vie. Et avant que nos chaînes nous entraînent trop loin, loin de Dieu, Jésus-Christ, un jeune homme très riche, très bien, très beau, un jeune homme comme il faut, qui ferait un beau mariage, le Seigneur lui dit, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Voulant dire la suite, c'est comme s'il disait, « Ton argent, ton amour pour l'argent te conduit loin de Dieu. Alors suis-moi et tu auras le vrai trésor dans le ciel. » L'heure de mourir, c'est l'heure où tombent les chaînes. Il n'a plus rien. L'heure de mourir, c'est l'heure de penser à l'éternité. J'imagine ce riche dans sa chambre avec ses tentures, remplies de serviteurs, de servantes, et qui est en train de mourir un soir. Et tout à coup, ses yeux s'ouvrent sur l'éternité, l'heure de la vérité, l'heure de penser à l'éternité. Il sait maintenant que le chemin continue. Il sait maintenant que on ne s'arrête pas à la terre. Mais il y a une question qu'il n'a pas réglée. C'est la vie éternelle. Nous n'avons que cette vie pour la régler. La vie éternelle. Quel chemin? Où allons-nous? Que ferons-nous? Avec qui serons-nous? Pris par les richesses, pris par les soucis mineurs de la terre, aveuglés par le prince de ce monde, nous nous inquiétons pour les choses, je les appelle les choses avant-dernières, les choses de maintenant. Et on ne s'inquiète pas pour les choses dernières. Martin Luther, il y a 5 siècles exactement, se poser la question sur les choses dernières. Où serai-je dans l'éternité? Comment irai-je vers Dieu? Il se posait la question. Et nous, nous pensons plus aux choses de demain, après-demain, les vacances, mais pas après. Et brusquement, toutes les espérances dont on a entendu parler à l'Église, peut-être, s'ouvrent devant nous. Et tous les projets de la terre s'arrêtent, se taisent. Le riche part. Le palais est abandonné. La foule bruyante est délaissée, dit la Bible. Que ferons-nous de la grande affaire de l'éternité? Le prophète de la Bible, Ésaïe, dit « Qui peut rester près des flammes éternelles sans se brûler ?» Que ferez-vous? Que ferons-nous? Mais l'amour de Dieu nous presse, dit la Bible. Ce qui veut dire l'amour de Dieu nous bouscule, l'amour de Dieu nous tire, l'amour de Dieu nous prend, parce que notre vie passe comme un songe, comme une vapeur, comme la fleur de l'herbe. Et dans cette vie, il faut mettre sa confiance en Dieu, ses mains dans les mains de Jésus, ses pieds sur son chemin et notre cœur dans la parole de confiance de Jésus-Christ. Dernière heure, l'heure de penser à l'éternité. Il faut mieux y penser avant. Il part, le riche, de la parabole, de l'histoire. Ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie que Jésus décrit, parce que Jésus parle d'Abraham. Ce n'est pas une parabole, Abraham. Lazare. L'heure de partir, c'est aussi l'heure de la vérité. Vérité qu'il a toujours refusé de voir, d'entendre. Toute sa vie, il y avait sur le seuil de sa maison un homme qui sentait mauvais, avec des chiens, comme un SDF. Et cet homme était pour lui comme un appel. Pense aux autres, pense aux autres. Mais cet homme ne pensait qu'à la joyeuse vie. Et cet homme portait un nom qui était tout un message, Lazare. Lazare qui veut dire Dieu mon secours, Dieu est mon secours. Et quand le mauvais riche enjambait le pauvre manant, le pauvre mendiant, il devait dire encore Lazare. Il prononçait un mot qui était pour lui un message. Dieu est mon secours, encore Dieu est mon secours, toujours Dieu est mon secours. Et il ne réfléchissait pas que Lazare était un appel de Dieu pour qu'il pense à Dieu le secours. Et ce jour-là, il est parti. Il a ouvert les yeux sur la vérité. Il sait maintenant où il est. Il ne veut pas que ses frères viennent où il est. Il n'a pas dit, oh, un jour tout ça, avec la science, ça s'arrangera. On prouvera le contraire. On prouvera le contraire. Il n'a pas dit, ça, c'est des histoires anciennes. Il sait que c'est la vérité. Il n'a pas dit un jour on n'y croira plus. Il sait que c'est la vérité. Le lieu où il est un lieu terrible pour lequel Jésus-Christ, Dieu lui-même, est venu sur la terre. Et là, dans ce lieu, il voit de loin Abraham et Lazare. Il connaît Abraham sans l'avoir jamais vu. Il voit Lazare qu'il a déjà vu, il les voit consolés, heureux. Il entend dans le lieu où il est parler des Écritures, il entend parler de la Bible, il entend parler de Moïse, des prophètes qu'il connaît. C'est un juif, il connaît ça par cœur. On me le dit souvent, mais je connais ça par cœur. Et voilà que ce mauvais riche, qui n'est plus riche du tout, dans le lieu où il est, il voudrait que quelqu'un ressuscite pour que ses frères ne doutent pas que c'est la vérité. Il pense à ses frères. Ce qui veut dire que dans le lieu où il est, dans le lieu où vont les gens qui ne veulent pas de Dieu, on pense à nous. Il pense à ses frères. J'ai 5 frères dans la maison de mon père. On pense à nous actuellement. On pense à ceux que nous avons laissés sur la terre. Et on prie pour nous. On prie, mais mal. On prie pour que les gens qui sont sur la terre, qui continuent leur vie, ne viennent jamais dans ce lieu, mais qu'ils l'ont. Accepte de croire dans la vérité. Avez-vous remarqué qu'il ne prie pas pour lui? Il prie pour ses frères qui sont encore vivants, il ne prie pas pour lui. Parce que dans le séjour des morts, en enfer, comme cet homme semble être, on ne se convertit pas. On ne se convertit pas après la mort. On se convertit avant la mort. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, dans cette église, maintenant. Parce que là, il voit sa folie. Il voit sa pauvreté. Il reconnaît les Écritures. Il reconnaît la vérité. Pourquoi attendre cette heure-là? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi attendre trop tard pour se convertir alors qu'aujourd'hui, on peut le faire? Qui nous aveugle, qui nous rend sourds, qui nous rend muets, qui nous rend aveugles, pour qu'aujourd'hui on reporte à demain la plus grande histoire. C'est l'heure de la vérité. Les paroles de Jésus, nous les verrons un jour, et nous les verrons aujourd'hui si nous y ouvrons notre cœur. Donc c'est une grande heure que celle de passer de ce monde vers Dieu. Quatrièmement, c'est l'heure que Dieu nous offre aussi. Vous avez vu Lazare, ce pauvre qui était entouré de chiens qui lui léchaient les ulcères, qui attendait à la porte du riche, jour et nuit, une miette, tout petit peu. Et le riche ne lui donnait même pas une miette. Mais cet homme s'appelle Lazare, et cet homme, par conséquent, avait confiance en Dieu, son secours. Et je pense que cette heure-là dans laquelle nous allons entrer un jour, je crois qu'il faut qu'on y soit prêt aujourd'hui en disant « Seigneur, je n'ai pas tout sur la terre, mais tu es mon secours. L'Éternel est notre secours et notre abri quand la terre est bouleversée. Et si tu lui demandes quelque chose, il te le donnera. Si tu cherches, tu le trouveras. Si tu frappes, il t'ouvrira. » Quand nous sommes dans cette vie, quelle que soit notre condition physique, c'est l'heure de nous dégager du mal, c'est l'heure de nous convertir, c'est l'heure de regarder le seul chemin entre le ciel et la terre, entre Dieu et nous. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, pas un autre. Un seul salut, un seul sauveur. Car lui aussi a dit, Jésus, j'ai soif. Il a eu soif parce qu'il a connu la mort sur la croix. Il a connu le fleuve de la mort pour que nous n'y allions jamais. Il a mis une vanne au fleuve de la mort. Il a mis une porte au fleuve de la mort. Il a fermé le courant de destruction qui devait nous engloutir. Il a bouché le fleuve de la mort. Le jour de sa mort, la mort était vaincue. Aujourd'hui, si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il est passé de la mort à la vie. Le plus merveilleux pas sur la terre, est-ce le pas dans la mort ? Non. Quel est le pas le plus grand ? Quel est le pas le plus important ? Quel est le pas le plus extraordinaire sur la terre ? Est-ce que c'est de passer de ce monde à Dieu ? Non. Le pas le plus important, le pas le plus sérieux, le plus grave, qu'il ne faut surtout pas manquer, c'est le pas pour passer de notre vie actuelle à Jésus-Christ. Le reste, ça marche bien et ça suit. Quand on a fait le pas vers Dieu, le reste suit naturellement. Le Seigneur ne nous abandonnera pas en chemin. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi dans la vallée de la mort. Je te conduirai vers la maison du Père. Tu ne verras même pas la mort. Je suis avec vous tous les jours. Ça suit bien. On n'a rien à craindre. Nous serons portés comme Lazare par les anges dans le sein de notre Père Céleste. Mais le pas le plus important, c'est aujourd'hui, à ne pas manquer. C'est la plus grande distance qu'il faut franchir. Parfois, les gens disent, il est parti pour le grand voyage. Le plus grand voyage, le pas le plus grand, c'est de passer de cette vie que nous avons aujourd'hui avec toutes nos épreuves de souffrance, de dépression, de solitude, d'incompréhension, de douleur, de maladie, c'est de passer de cette vie à Jésus-Christ. Vous me direz, si c'est le plus grand voyage, vais-je réussir ? Vais-je vivre assez longtemps ? Suis-je capable ? Ai-je assez d'intelligence, de diplôme, de mémoire ? Ce pas, il est grand parce que le fossé entre Dieu et nous est immense. Mais ce pas, il est simple. Un seul oui suffit. La seule foi suffit. Croire suffit. Ça suffit. Dieu n'a pas compliqué les chemins. Il ne joue pas avec nous au jeu de piste. Il ne nous égare pas. La vie va trop vite. Nous vivons deux fois rien. Et nous pouvons mourir jeune, ce soir, demain. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. La simple foi nous jette dans les bras de Dieu. Ou plutôt, par notre seule foi, Dieu se saisit de nous pour nous dire désormais, tu n'es plus l'esclave du hasard ou d'un maître qui va te mener dans la souffrance. Tu es maintenant mon enfant que je porterai jusqu'à son dernier souffle. Je vais prier le Seigneur afin que, en méditant cette histoire, vous puissiez dire, mais sur cette terre où je ne suis maître de rien, ai-je réglé la chose la plus importante au monde? Connaissez-vous quelque chose de plus important que votre avenir éternel? On fait des projets pour la retraite, mais un jour, il faudra bien rentrer dans une maison de retraite. La chose la plus importante, c'est être dans les bras de Dieu pour la suite des temps, faire partie de sa maison, être des gens de sa maison, faire partie de son programme, faire partie de son projet qu'il a eu avant que nous naissions, nous aimer éternellement. Tout ce que Dieu fait est éternel. L'espace paraît éternel. Le temps paraît éternel. Dieu n'a pas de fin. Et on est surpris quand il nous dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Ça veut dire « Je t'ai toujours aimé ». Tu n'étais même pas né. Il n'y avait même pas un atome de la terre de poser. Je t'ai aimé et je t'aimerai toujours. C'est rassurant. Il n'y a pas de changement chez Dieu, pas de flottement, pas d'ombre, rien. Faites confiance à Dieu. Seigneur, voici mes mains, voici mon cœur, voici mon fardeau, le fardeau de mes enfants, de ma femme, de mon mari, de mes parents. Me voici, Seigneur. On incline nos têtes ensemble. Si le mauvais riche priait pour que ses frères ne viennent pas dans cet éloignement de Dieu. Dans le ciel, il y a quelqu'un qui prie pour que nous soyons dans un rapprochement de Dieu. C'est Jésus-Christ. Il espère votre retour. Il espère que vous allez cheminer avec lui. Que dès le matin, et quand les journées seront difficiles, vous puissiez dire, Père, je ne comprends pas, mais tu es là, guide-moi. Ma santé se dégrade, mais je regarde à toi. Mes enfants me font souffrir, mais je regarde à toi, Père. On n'est plus seul. Dieu aime vivre avec nous. Il ne nous attend pas les bras croisés tout en haut, je ne sais où. Il aime vivre avec nous. C'est nous qui sommes muets, mais lui aime notre prière. Il a une capacité d'écoute formidable. Il écoute chaque mouvement de notre cœur, chaque murmure, chaque parole. Pourquoi nous ne le prions pas? Pourquoi? Allons à lui, en toute assurance, à notre appel, il répondra. Allons à lui. Nous prions ensemble. Nous voulons te remettre notre vie, parce que la vraie vie, c'est te connaître. C'est te parler, te faire confiance, t'appeler quand nous sommes en danger, t'appeler quand tout va bien pour te dire merci, t'appeler quand il y a l'orage, parce que tu es un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors nous voulons te remettre notre cœur, avec ses défauts, ses égarements, ses jours très lourds de pesanteur, nous te remettons notre vie. Prends-nous, Seigneur, et conduis-nous toujours vers toi. Guéris nos corps malades, protège nos santé, nos âmes, notre foi, pardonne nos offenses. Nous t'avons blessé souvent. Nous voulons être un ami de Lazare. Nous voulons nous appeler Lazare. Dieu est mon secours. Dieu est mon secours. Mon seul secours. Je n'ai que lui. Je n'ai que Jésus. Dans le ciel et sur la terre. Merci Seigneur. Amen. On reste quelques instants avec une réflexion en nous. Que fais-je de ma vie? Comment je vis ma vie? Est-ce que je pense à l'essentiel? Est-ce que je m'en moque? C'est aujourd'hui le moment de pas seulement répondre, mais de venir. Dieu vous attend. Oubliez-moi, mais n'oubliez pas Dieu. Gardez vos yeux sur lui. Je vais prier afin que ceux qui, au milieu de nous, ont besoin de retrouver le chemin, la vérité, la vie, le souffle de joie, d'espérance, la lumière, puissent pendant quelques instants faire le point, appeler Dieu. Je vais les inviter à s'approcher. Vous qui êtes malade, vous qui êtes en dépression nerveuse, vous qui avez perdu, vous semble-t-il, une partie de votre existence, vous qui ne savez plus reconstruire et qui n'espérez plus dans quelque chose de meilleur, Dieu vous appelle. Qui désire la prière? Vous pouvez vous approcher, je vais prier pour vous en vous imposant les mains. Et Dieu se charge de faire ce qu'il a à faire. Dieu est avec vous. Il va vous répondre. Qui désire la prière? Seigneur, nous t'invoquons. Nous te prions. Venez avec une prière en vous. Une prière toute simple. Les mots sont simples pour Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'eux. Je voudrais que. Me voici, Seigneur. Vous demandez, vous allez recevoir. Dieu n'est pas sourd, il est là. Amen. Venons à toi, Seigneur. Venons chercher le secours qui ne manque jamais, le secours qui nous arrache du fond de la mer, qui nous arrache de nos détresses intérieures, de nos tentations, de ce qui s'est brisé au fond de nous et nous fait arriver là où il veut que nous soyons, à côté de lui, en sécurité. Ma fille, ta foi te sauve, ta foi te guérit, va en paix, ne crains rien, je suis avec toi. Amen. Amen. Je te prie, Seigneur, pour notre frère et pour cette petite fille. Je te prie, Seigneur, de poser tes mains afin qu'ils reçoivent en cet après-midi une bénédiction sur leur maison, leurs projets, l'échec, les difficultés. Ils ont besoin que Dieu les secoure et Dieu va les secourir. Parce que Dieu ne met jamais personne dehors. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Garde-les dans la sécurité, la paix, au nom de Jésus. Amen. Qui autre que toi peut délivrer, arracher nos âmes de tout ce qui détruit, dévore, de tout le passé qui dévore, de tout l'avenir qui fait peur? Qui d'autre que toi peut nous saisir par la main pour nous conduire dans la sécurité avec toi à nos côtés, toi en nous, vivant en nous, parlant en nous? Bénis notre frère qui s'approche de toi. Pose tes mains sur lui, délivre-le de ce qui est plus fort que lui, rassure-le, conseille-le, reste avec lui. Amen. Merci, Pasteur. Amen. Bénis ce petit garçon, Seigneur, qui a besoin dans sa santé. Tu sais ce qu'il a. C'est son père qui te l'amène. Je l'amène avec son papa. Nous le présentons devant les regards de Dieu. Nous le présentons, nous le mettons dans les bras de Jésus. Touche-le et guéris-le maintenant même, à l'heure même, à l'instant même. Il fut guéri, oui, qu'il soit guéri, et touche sa famille tout entière au nom de Jésus-Christ par cette grâce. Amen. Merci Seigneur. Nos douleurs dépassent parfois notre raison. Mais dans le ciel, quelqu'un recueille nos larmes, quelqu'un entend nos appels, quelqu'un a pris soin de nous dès le ventre de notre mère. C'est notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Écoute cette maman, cette grand-maman, pour ce petit Enzo qui est leucémique, et pour ses enfants et petits-enfants, écoute son appel, écoute aussi pour sa santé, écoute aussi pour ses craintes, ses angoisses. Seigneur, que la main de Jésus soit posée sur elle, ressuscite-la, relève-la, donne-lui l'assurance que Dieu s'occupe de tout. Amen. Merci Seigneur. Vous vous approchez, nous allons prier pour vous. Seigneur, étends tes mains sur Madame Lucas, que les forces du Seigneur l'accompagnent, que la tranquillité soit dans son âme, que la paix soit dans ses pensées, que le calme revienne en elle, qu'elle sache avec certitude que Dieu est sa force et sa sécurité et qu'elle n'a rien à craindre. Que peuvent lui faire les hommes? Tu es avec elle. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, tu entends la prière qu'elle te fait dans le secret de son cœur. Tu sais pour qui elle prie, elle t'apporte sa vie, sa maison, sa famille. Elle t'apporte tout ce qui a été difficile, joyeux, toute son espérance et toute l'espérance que tu mettras encore en plus dans son cœur. Apporte des guérisons dans la famille, apporte des réponses à ses questions. Mets le calme, mets la joie, mais la sécurité et la paix qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Merci. Amen. Merci Seigneur pour ce frère qui s'approche de Dieu, s'approche pour dire: Seigneur, regarde-moi, j'ai besoin de toi dans mon travail, j'ai besoin de toi pour la suite de ma vie, je ne puis rien sans toi, je suis troublé. Touche-le, prends-le par la main et conduis-le dans le chemin que tu as tracé, préparé, ouvert pour lui seul. Merci de veiller sur lui. Amen. Bénis Seigneur mon frère Rian, que la bénédiction du Seigneur soit sur lui. Tu sais quelles sont ses tristesses. Je te prie pour son épouse Rachel à Madagascar. Je te prie pour son travail. Je te prie pour tout ce qu'il a préparé et tout ce qu'il n'a pas réussi. Mais dans le ciel, nous avons un Dieu qui répare, un Dieu qui est capable de faire recommencer des gens dans une nouvelle vie. Seigneur, incline tes regards, incline ton oreille. Écoute sa prière secrète au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur d'entendre la prière de notre sœur. Tu connais ses prières le jour et la nuit. Tu connais toutes ses difficultés, ses enfants que tu aimes. que tu lui as donné. Tu lui as donné pour qu'ils vivent, tu lui as donné parce que tu les aimes depuis toujours. Mais tu vois, mon Dieu, tout ce qui se passe dans leur cœur. Je te prie de les toucher, de les arrêter, de mettre un stop, de mettre une barrière afin qu'ils arrêtent et qu'ils pensent à Dieu, à leur mère, qu'ils puissent dire « Je suis Lazare, Dieu mon secours. » Amen. Merci de garder la foi de notre sœur. Amen. Seigneur, écoute la prière de mon frère Jean-Marie. Écoute son appel. Aujourd'hui, il fait appel à toi parce qu'il a besoin dans sa maison, il a besoin dans son travail, dans sa santé. Il a besoin pour ceux de sa famille qui sont loin. Seigneur, il te demande de l'aider, de l'encourager, de le porter. Tu as des paroles pour lui. Ouvre ses yeux, clarifie ses pensées. Reste avec lui au nom de Jésus-Christ toute sa vie. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, frère.